Tendance Première.
Merci d'être avec nous. En direct, Tendance Première, je l'ai sous la main. Comment tout peut s'effondrer, c'est le livre qui nous occupe jusqu'à 11h. Il pourrait faire peur, je l'ai lu pour préparer l'émission. Il pourrait faire peur, mais en fait, il permet surtout de donner des pistes et de l'optimisme. Pour la suite, c'est important de se poser des bonnes questions aujourd'hui. J'ai découvert effectivement aussi un nouveau mot, c'est la collapsologie. On va en parler avec deux invités. Tout d'abord, Raphaël Stevens, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez coécrit ce livre, Comment tout peut s'effondrer au seuil. La bonne nouvelle, c'est que vous m'avez dit que le livre est fort demandé. Il est parfois en réimpression, donc ça veut dire que les lecteurs, les personnes s'intéressent à ces questions-là. Merci d'être là. Vous l'avez écrit avec Pablo Servigne, ce livre. Raphaël Steven, vous êtes éco-conseiller, chercheur indépendant également.
Tout à fait.
Merci en tout cas de venir à la fois poser les bons constats sur ce qui se passe pour l'instant sur la planète et puis essayer avec vous de trouver des solutions. C'est aussi une chose importante. En face de vous, c'est Jonathan qui est avec nous, Gevorts. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous, Jonathan, bio-ingénieur, philosophe, on en a besoin, j'ai l'impression aujourd'hui. Vous étudiez les conditions qui ont permis ce qu'on appelle l'émergence de la civilisation industrielle. Alors votre constat, Raphaël Stevens, dans ce livre, et puis je donnerai un semblant de définition de la collapsologie dans un instant. D'abord, c'est de dire, vous ne faites pas du catastrophisme. On parle dans les médias depuis de nombreuses années de plusieurs crises. Je l'ai dit en début d'émission, climatique, crise migratoire, crise financière. Vous dites, il est de notre responsabilité aujourd'hui, l'humanité, de poser le débat d'un effondrement possible, peut-être rapidement, de la civilisation.
Oui, bien sûr, c'est important.
C'est difficile, important, mais c'est difficile de poser ce débat-là, de ne pas être pris rapidement pour des personnes qui font peur, pour des catastrophistes.
Oui, bien qu'effectivement, le constat en lui-même peut faire peur. Et même nous-mêmes, Pablo et moi, en écrivant le livre, nous avons eu peur en lisant donc des centaines d'articles scientifiques, hein, puisque notre livre est en fait une revue de littérature scientifique des crises, des catastrophes qui ont déjà lieu aujourd'hui et que les scientifiques annoncent d'une ampleur plus importante encore dans le futur.
Oui, vous aimez bien, et je trouve ça intéressant dans votre livre, c'est d'ailleurs la couverture, ce sont des carcasses de voitures qui sont empilées. On retrouve tout au long du livre cette métaphore de la voiture, qui aujourd'hui, vous l'avez dit, est devenue incontrôlable.
Oui, tout à fait. Ben, il y a plusieurs problèmes de la voiture. Donc, il y a d'abord le réservoir d'essence. Si on compare la voiture à notre civilisation industrielle, on parle bien de la civilisation industrielle en ce qu'elle nous apporte en termes de confort matériel aujourd'hui. Eh bien, cette voiture, finalement, a donc un réservoir, et ce réservoir se vide. Ce réservoir, c'est un réservoir où on y met, évidemment, du pétrole, beaucoup d'énergie fossile, toute l'énergie dont nous avons besoin pour assurer notre niveau de vie. Donc, ce réservoir se vide. Et puis aussi, évidemment, la voiture aussi a un risque de sortie de route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on a dépassé les frontières, ce que les scientifiques appellent les frontières planétaires.
Il y en a 9, on va en parler.
Voilà, 9 frontières planétaires, dont on parlera tout à l'heure. On voit que cette voiture, donc notre civilisation industrielle, est au bord d'un précipice finalement, ou d'une sortie de route. Et puis cette voiture qui est devenue plus perfectionnée à travers les 200 dernières années de développement de la civilisation industrielle, eh bien elle est devenue aussi, donc devenue très puissante, mais aussi plus fragile. Voilà encore un des problèmes dont on pourra parler. Et puis enfin, le volant, notre direction, ou la pédale d'accélérateur, on a le pied à fond sur la pédale d'accélérateur, et le volant bloqué. Donc on a du mal effectivement à changer la direction. Il y a un désir de changement important dans la société. On peut le voir, l'entendre tous les jours. Mais effectivement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le volant reste bloqué. Donc on n'arrive pas à changer cette direction. On constate qu'on accélère toujours plus vite et que notre volant est bloqué. Et donc on va dangereusement, on s'approche de ses limites, de ses frontières.
On va bien sûr en parler jusqu'à 11h. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à apporter. 6031, c'est le SMS, la page aussi Facebook de La Première. Il y a cette belle phrase, je trouve, en fin du livre, qui permet de faire une transition aussi sur ce que vous appelez la génération gueule de bois. Vous dites dans votre livre, il fallait toujours plus d'avoir, plus d'énergie, plus de vitesse et de maîtrise, en parlant de la société moderne. Finalement, la modernité ne sera pas morte de ses blessures philosophiques post-modernes, mais faute d'énergie. Vous venez d'en parler, Raphaël. Et puis vous dites, je trouve ça assez beau, si les amphétamines et les antidépresseurs ont été les pilules du monde productiviste, la résilience, la sobriété et les low-tech, on verra ce que ça veut dire les low-tech au juste, seront les aspirines de cette génération gueule de bois.
Oui, tout à fait.
Je trouve cette phase particulièrement percutante.
Mais oui, je pense que c'est important de rappeler effectivement qu'on est dans une société aujourd'hui, on voit réellement le stress monter, pas tout le monde se pose aujourd'hui des questions, on le voit tous les jours, on a eu énormément de courriers de lecteurs, notamment hein, suite à l'apparition du livre, de courriers de lecteurs qui nous remerciaient effectivement d'avoir exprimé dans ce livre, à travers nos mots, une intuition qui est largement, finalement, assez largement partagée par la population. On dit souvent, on entend souvent, on va droit dans le mur.
Oui.
Effectivement, il y a quelque chose qu'il faut changer, en effet, changer nos modes de vie pour oui. assurer une continuité
vous proposez,
à l'humanité.
Hein. Oui, vous proposez des solutions dans le livre, Raphaël Stevens. Je vais me tourner dans un instant vers le philosophe qui est avec nous, c'est Jonathan Gevorts. Vous dites, et c'est intéressant aussi, la collapsologie, c'est un mélange d'études scientifiques très sérieuses, et puis aussi un peu d'intuition. Se dire, tiens, quand est-ce qu'on pourrait pas être un peu intuitif et se dire, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les années qui viennent? J'aime bien aussi ce lien entre la fois l'aspect scientifique et l'aspect intuitif. Jonathan Gevorts, le philosophe que vous êtes, quel regard vous portez aujourd'hui sur d'abord ce livre qui a été écrit par Raphaël Stevens qui est avec nous, et puis sur cette nécessité de poser cette question qui est parfois difficile pour l'homme, et si tout devait s'arrêter?
Alors, tout d'abord, c'est difficile pour moi d'enlever mes deux casquettes, parce que j'ai la casquette aussi de bio-ingénieur. Et c'est vrai que j'ai abordé moi cette thématique d'abord par l'aspect scientifique, tout ce qui est crise écologique, etc. Donc ça, c'est la dimension, on va dire, de bio-ingénieur.
Oui.
Mais en tant que philosophe, en fait, la question que ce livre pose, qui vient un peu briser les tabous, c'est la question de la finitude, en fait. La question des barrières qui a à cette croissance infinie, qui est le postulat de base, en fait, des économistes actuels. Donc, ça vient mettre, on va dire, un questionnement par rapport à cette course effrénée de la voiture. Donc ça, c'est une première chose.
Oui, que l'homme n'aime pas se poser.
Ce que ce livre vient amener, c'est la question de la mort d'un système. Donc on y reviendra, j'imagine, à un moment donné. On avait déjà fait cette remarque lors d'une émission précédente. On parlait pas de la fin du monde, on parle de la fin d'un monde. C'est la fin. Donc c'est la mort, en fait, d'une civilisation
oui.
qui est basée sur une croissance matérielle indéfinie.
C'est cela qui est intéressant dans le livre et qui est à partie optimiste aussi, c'est qu'on ne dit pas nécessairement que l'homme va disparaître. Par contre, vous posez tout de même cette question-là, parce qu'on verra qu'avec la globalisation, avec le fait que les systèmes sont enchevêtrés, ça peut aller plus vite que prévu. Mais je reste avec vous, Jonathan Gevorts. Vous dites surtout que le livre permet de poser le constat de la fin d'un monde qui pourrait être assez proche.
Oui, alors là, bon, si la question c'est les prédictions sur quand est-ce que ça peut se passer, bon là, on reste toujours dans les prédictions. Enfin, ça reste énigmatique. On ne sait pas dire voilà, ça va se passer à telle date. Non, ce que vient vraiment poser comme question, c'est oui. à partir du moment où le système tel qu'il est actuellement, donc est basé sur du matériel, tout simplement. Donc, Raphaël l'a dit, il y a des consommations d'énergie fossile, il y a des consommations de minéraux. Ça arrive, à un moment donné, on arrive oui. à des limites.
Oui, et justement, Raphaël parlait des 9 frontières oui. invisibles de l'humanité. C'est la transition, on va en parler juste après la pause musicale, mais je reste avec vous, vous êtes bio-ingénieur. Il y a deux frontières qui semblent avoir été déjà franchies, la frontière climatique et la frontière liée à la biodiversité.
C'est ça, il y en a même d'autres, hein, si on rajoute oui. tout ce qui est lié au cycle de l'azote.
On va y venir.
Ouais, hein. okay, d'accord. Oui.
Mais la frontière climatique, par exemple, celle-là, elle a été franchie, on en parlera aussi. Ça reste quelque chose qui est visible aujourd'hui. On a pris conscience mm-hmm. que cette frontière-là était dépassée.
Il y a énormément, effectivement, encore beaucoup dans la presse aujourd'hui. On a vu hier, encore vu hier sur le fil Facebook, Rome ici est confrontée, pour la première fois depuis
200 ans,
à une sécheresse Donc ils ont des problèmes de tout simplement d'approvisionnement en eau au niveau des nappes phréatiques. Il y a encore eu récemment un détachement au niveau, je pense, c'était l'Antarctique, d'une énorme plaque. Voilà, il y a énormément d'articles ces derniers mois qui viennent à chaque fois rajouter une couche, oui, à ce constat. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est pas seulement dire qu'il y a un réchauffement climatique. Et c'est ça, je pense, qui est très important de comprendre, parce qu'on parle souvent, oui, réchauffement, le niveau des mers qui va augmenter. En fait, on arrive, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on arrive à un moment d'incertitude. C'est-à-dire que les climatologues, ils disent, on arrive à un point, et ça, ils en parlent, un tipping point, un point de rupture où on ne sait pas ce qui va se passer après. Ouais. On ne sait pas quel type de mécanismes peuvent se passer après.
Ouais, comme le disait Raphaël Stevens, et puis on marque une pause musicale, c'est l'idée de cette voiture qui est devenue incontrôlable, qui est en partie déjà sur le bas-côté. Raphaël ?
Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est les fameux 2 degrés. Hein, dont tout le monde, on parle souvent, c'est des 2 degrés de réchauffement climatique. Et en fait, on s'aperçoit que ce que la science dit, c'est que quand on dépasse ces frontières, on peut les dépasser. Ce ne sont pas des limites infranchissables, ce sont des limites franchissables. Donc on parle vraiment de frontières. Hein, en anglais, ils appellent ça planetary boundaries, donc des frontières planétaires. On dépasse ces frontières et c'est uniquement après avoir dépassé ces frontières, oui, qu'on connaît les conséquences de ces actes. Et nous sommes libres, finalement, nous avons un choix, on peut choisir de dépasser ces frontières ou pas. Et donc, on connaîtra les conséquences, si on les dépasse, on ne connaîtra les conséquences qu'après. Et donc, effectivement, ça pose tout un tas de questions philosophiques, et puis, en termes psychologiques aussi, évidemment, on pourra en reparler.
On y vient.
Les émotions, les réactions que cela peut...
Bien sûr, on y vient tout de suite. Comment tout peut s'effondrer, c'est votre livre. Saul, tout de suite, je reviens, et puis Tendance Première revient également.
Tendance Première, Fabrice Lambert.
Merci de nous suivre en direct. Ils sont tendance, ce sont des collapsologues. J'ai découvert ce terme-ci, la collapsologie. Vous vous considérez, Raphaël Stevens, comme un collapsologue ?
Oui, alors, la collapsologie, donc ce mot de collapsologie vient un peu d'une boutade lorsqu'on travaillait sur le livre avec Pablo. En fait, oui, aujourd'hui, je me considère comme collapsologue, c'est-à-dire qu'en fait, j'étudie l'effondrement possible de notre civilisation. Alors, il s'agit pas d'un travail, enfin, il s'agit aussi d'un travail historien, mais il y a les historiens qui ont étudié effectivement les effondrements.
Dans 150 ans, si le dernier humain retrouve votre livre, il pourra dire, il l'avait dit.
Tout à fait. Mais en fait, quand on écrit comme ça, donc sur ce sujet-là, effectivement, on espère d'une part que ça va servir à quelque chose. Effectivement, c'est une alerte, effectivement, qu'on lance.
C'est un travail de responsabilité aujourd'hui plus que jamais. L'humanité doit être responsable. On verra qui peut faire changer les choses. Vous avez l'impression d'avoir fait aussi une œuvre de responsabilité ?
Bien sûr, la collapsologie est vraiment un travail de responsabilité. Et d'abord, d'en parler, c'est un sujet dur, difficile, qu'on ne peut pas traiter comme ça, avec des amis, un peu un soir, autour d'un verre. Souvent, on en parle comme ça. D'ailleurs, on entend beaucoup de personnes qui en parlent. Mais finalement, on en vient vite à des réactions très rapides qu'on évacue. Donc, une forme de déni, finalement, en disant, mais on trouvera bien quelque chose. La technologie va résoudre les problèmes. Ou c'est pas grave, on partira sur Mars. Ou c'est pas grave, bien fait pour l'humanité. De toute façon, nous sommes comme un cancer sur la Terre, etc. Et donc, on évacue finalement la vraie question, c'est-à-dire les questions de souffrance que peut amener la fin de notre civilisation.
Diego nous dit par SMS, c'est 60-31, 75 centimes le message, il dit « Je trouve cela complètement fou de continuer à parler de croissance économique alors que les ressources ne sont pas infinies. »
Ben, tout à fait. C'est un béaba, effectivement. On sait que notre économie est basée tout d'abord sur une énergie.
Il y a quelque chose qui est assez simple à comprendre quand on lit votre livre. Je ne suis pas un mathématicien, mais il y a cette fonction exponentielle que vous expliquez bien dans votre livre. Ouais. Cet emballement, cette accélération et notamment la croissance démographique. La Terre n'est pas faite pour accueillir autant d'êtres humains.
Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une combinaison de facteurs. Souvent, ce qu'on entend aussi dire, c'est que oui, mais c'est la faute, on est bien trop nombreux sur la Terre, etc. Alors oui, c'est une partie, mais c'est seulement une partie de l'équation. L'équation, c'est nombre d'êtres humains, leur taux de consommation et la technologie qu'ils utilisent.
Hein,
donc si c'est une technologie sobre ou pas, et c'est la question des low-tech évidemment. Et donc c'est une combinaison de ces trois facteurs qui fait que nous dépassons ces frontières.
Donc le risque, c'est pas tellement le nombre d'êtres humains, mais c'est surtout, comme vous l'avez dit, l'équation entre le mode de vie de l'humanité.
Le mode de vie et la technologie qui est utilisée. Hein, si c'est une technologie qui est fort dispendieuse en énergie et qui émet beaucoup de gaz à effet de serre ou dispendieuse en termes de ressources minérales. Et donc voilà, oui. C'est vraiment cette équation. On ne peut pas dire que toute la responsabilité incombe au nombre d'êtres humains sur la Terre. Ça, ce n'est pas vrai.
Il y a une image qui est intéressante dans votre livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». On a beaucoup parlé de la voiture jusqu'ici. C'est l'image du Boeing. Vous dites au total 6 millions de pièces sont nécessaires pour construire un Boeing 747. Pour assembler ces avions, Boeing fait appel à près de 6500 fournisseurs basés dans plus de 100 pays, effectue environ 360 000 transactions commerciales chaque mois. Telle est l'incroyable complexité de notre monde moderne.
Voilà. C'est ça, ça explique effectivement la mondialisation, en fait, hein, sur ces, on va dire, plus de 20, 30 dernières années. Vraiment, donc, les systèmes se sont interconnectés, nos pays se sont interconnectés et nous dépendons de chaînes d'approvisionnement.